Vous voyez, quand je suis entré au noviciat, moi je suis français. J'avais fait mon service militaire, comme tous les Français de ma génération, dans l'armée française, pendant la guerre du Golfe. Dans la cellule d'à côté, dans mon couvent, le frère d'à côté avait fait son service militaire dans l'armée irakienne, pendant la guerre du Golfe. Et nous nous sommes retrouvés pendant 7 ans, pendant notre formation initiale, à prier, à manger ensemble, à faire le ménage ensemble, à avoir de bonnes parties de rigolade et à partager les souffrances l'un de l'autre. Voilà. Au bout de plusieurs années, je me suis retrouvé dans le même couvent à Mossoul. Et là, effectivement, eh bien, le français que j'étais a mieux compris un certain nombre de réactions des chrétiens d'Irak, des chrétiens et des musulmans. En enseignant à l'université de Mossoul, comme je l'ai fait, je n'avais pas que des étudiants chrétiens. J'avais des étudiants sunnites, chiites, chrétiens, yézidis, hein, turkmènes, quelques-uns, kurdes, arabes, de tous les horizons. Tous partageaient une même souffrance. L'aspiration, leur aspiration, c'était de vivre simplement, normalement. Leur question ne concernait pas la grande politique politicienne. Elle concernait, alors qu'est-ce qu'on regarde au cinéma, quelles sont les musiques, comment les choses se passent-elles dans les rapports humains les plus élémentaires. L'aspiration des gens en Irak n'est pas différente de celle qu'il peut y avoir à l'extérieur. C'est une aspiration pour les jeunes à vivre normalement. Alors il y a effectivement beaucoup de frustration parce qu'on a des systèmes idéologiques qui se mettent en place, parce qu'on a des solidarités qui fonctionnent pour le meilleur mais aussi pour le pire, et qu'on a beaucoup d'intérêts extérieurs qui se servent de l'Irak comme d'un champ de bataille pour régler leurs différends, au détriment des populations.
Comment est-ce que vous retournez vers vos frères et sœurs, justement, après être intervenu, après vos échanges au sein des Nations Unies, des droits de l'homme et autres ?
C'est vrai que pour beaucoup d'organisations, c'est toujours un défi. Il y a toujours le risque de fonctionner un peu en vase clos. Vous savez, les Nations Unies, vous entrez, vous passez un poste de garde, vous avez un badge, et là, vous êtes dans une espèce de bulle extraterritoriale, au milieu de nulle part, où les guerres se continuent, mais avec costume cravate, à pas feutré, et avec un certain nombre de codes qui évitent la confrontation physique, dirons-nous. Mais il s'agit bien de régler des conflits à l'origine. Nos frères et sœurs sur le terrain vivent ça de façon beaucoup plus rugueuse. Ils sont confrontés à la réalité qui saigne, pas à une réalité intellectuelle. Et donc, une partie du travail des organisations comme les nôtres, que ce soit les franciscains, les jésuites ou ICMC ou d'autres organisations catholiques comme Caritas par exemple, eh bien c'est précisément de faire le lien entre cette réalité du terrain et la réalité des Nations Unies. Chacune des deux a son importance, mais il y a un gros travail de traduction. Traduction dans une langue, traduction dans l'autre. Si nous délivrons à nos membres sur le terrain l'information brute telle qu'elle sort des Nations Unies, elle ne pourra pas être entendue. Si nous travaillons par exemple sur le fait qu'on ne délivre pas de carte d'identité aux femmes pygmées dans certains pays d'Afrique centrale, si nous renvoyons le rapport des Nations Unies aux femmes pygmées, ça n'aura aucun impact. Que voulez-vous qu'elles fassent avec un rapport de 100 pages des Nations Unies ? Ça ne leur sert absolument à rien. Donc le retour, il va être via nos frères et nos sœurs, vers les administrations locales, pour que ces femmes, quand elles en ont besoin, puissent avoir une carte d'identité. Donc le retour va être souvent beaucoup plus concret que les informations.
Et vous, personnellement, comment est-ce que vous appréhendez justement le fait d'être un relais par rapport, vous avez parlé de situations rugueuses, de conflits vécus directement par vos frères et sœurs. Comment est-ce que vous, personnellement, vous appréhendez votre mission ?
Alors effectivement, ça peut être un peu frustrant parfois parce que on ne s'adresse à moi que quand il y a de mauvaises nouvelles. Si je suis en contact avec un provincial d'un pays quelconque, lointain souvent, c'est parce qu'il y a des difficultés. Donc dans ce sens-là, il n'est pas toujours facile d'avoir une vision positive du monde quand on est réveillé la nuit que pour les choses qui ne vont pas. D'un autre côté, j'ai eu la chance ou la malchance peut-être de vivre aussi certaines de ces situations sur le terrain et donc de prendre davantage conscience de ce que ça peut apporter aux gens sur le terrain que de savoir qu'on s'occupe d'eux à un autre niveau et que ce qui ne peut pas forcément se régler sur le terrain peut se régler ailleurs. Vous voyez, dans un pays, il n'est pas forcément facile à la sœur d'un petit couvent d'aller voir le gouvernement. Aux Nations Unies, vous n'avez qu'à descendre et vous adresser à l'ambassadeur qui siège. Vous avez un accès direct. Donc, il s'agit d'un service, il ne s'agit pas d'un honneur, il s'agit vraiment d'un service, le service du plus faible, le service du plus pauvre. Si nous n'avons pas cette conception du service, notre travail n'aura aucun impact sur le terrain.
Donc, toute une partie qui est intervention, consultation, présence, et en même temps, toute une partie qui est contact personnel, entrevue, avec justement des représentants diplomatiques. C'est tout aussi important dans votre travail.
Effectivement, les Nations Unies sont un club d'États. Si nous ne parlons pas aux États, nous pouvons bien faire de grandes déclarations devant un beau drapeau bleu avec le sigle des Nations Unies dessus, ça n'aura aucun impact. Ce qui a un impact, c'est d'aller discuter avec les gouvernements qui ne sont pas forcément toujours bienveillants, qui peuvent nous voir venir avec certaines réticences, et essayer de les convaincre que ce que nous proposons est dans leur intérêt. Les États ne vont pas intervenir, changer leur politique par philanthropie. On ne demande pas à un diplomate de défendre autre chose que les intérêts de son pays. Ce serait trahir son pays. On lui demande de faire son travail. Et nous, notre travail, c'est de le convaincre, lui et son gouvernement, le gouvernement qu'il représente, d'aller dans un sens qui respecte davantage les droits de la personne humaine, créés à l'image et la ressemblance de Dieu.
L'efficacité du Conseil des droits de l'homme est parfois mise en cause. Je pense notamment au bombardement sur la bande de Gaza, sur les nombreuses déclarations qui avaient eu lieu à ce moment-là et qui n'ont jamais eu aucun effet. Vous, comment est-ce que vous vivez ce scepticisme, est-ce que vous le partagez par moment? Est-ce que vous êtes plein d'espoir d'autres moments?
Vous savez, il y a une formule un peu ambiguë qui dit que la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. C'est un peu la même chose pour les Nations Unies, c'est-à-dire que les Nations Unies sont un club d'États qui est loin d'être parfait. Tout le monde pourra vous dire, que ce soit les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les gens qui servent au sein du système des Nations Unies, peuvent vous faire une liste infinie des imperfections du système, des imperfections, des fautes, des manquements. L'embargo, par exemple, imposé par les Nations Unies à l'Irak, a fait énormément de tort à l'institution, en étant fait au détriment des populations civiles et pas du gouvernement qui était la cible de ces sanctions. Donc, nous savons que les Nations Unies sont un système imparfait. Notre but n'est pas de réformer le système, mais de prendre le système tel qu'il est, parce que nous ne pouvons pas le changer, nous sommes des invités du club et pas des membres du club, de l'utiliser tel qu'il est au profit des gens sur le terrain. Peu importe qu'il y ait une résolution votée ou pas, à partir du moment où la situation des gens sur le terrain s'améliore. Vous voyez, les résolutions, effectivement, des Nations Unies sur la bande de Gaza ne servent pas à grand-chose si, le même jour, Israël ne vient même pas siéger. Ça peut être un moyen de confronter ses points de vue, mais ça peut être aussi, parfois, sur certains théâtres, un moyen d'améliorer la situation sur le terrain. C'est la seule fonction des Nations Unies, à nos yeux, améliorer la situation des hommes et des femmes sur le terrain.